L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Le jeudi, parfois, c'est la Maison de l'agriculture biologique du Finistère qui nous propose de découvrir ses adhérentes et adhérents. Aujourd'hui, c'est Laurence Ranoux qui est avec nous. Elle a une bonne raison de venir. Elle participe à l'opération Les Petits-Déj Bio à la ferme. Plus exactement, c'est la fête du lait bio en Bretagne. Ce sera le dimanche 12 juin et ça se traduit par des petits-déj, bien sûr, donc des visites de ferme un peu partout. Enfin, dans le Finistère, en tout cas, il y en a 7 et Il y en a notamment à la ferme des Petits Corrigans à Castres, c'est celle de notre invitée. En plus, son parcours de fermière est intéressant et il y a quelques mois encore, elle n'était pas du tout agricultrice, elle travaillait dans le tourisme. Il y a peut-être un lien, remarquez, elle va nous expliquer. Bonjour Laurence Ranoux.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant d'être productrice en fait, de lait?
Eh ben, j'ai travaillé pour une agence de développement touristique et une agence de développement du territoire, donc qui s'appelle Finistère 360 degrés. Donc j'occupais un poste en charge de communication et de marketing, hein, et j'encadrais une équipe en fait. On développait différents supports, différents voilà, on faisait de la promotion du territoire.
Et quels étaient vos liens avec l'agriculture ?
Bon, déjà, mon mari est éleveur et producteur de lait, donc lui depuis 1994.
Voilà, quand même.
Donc, c'est mon premier lien avec l'agriculture. Et d'ailleurs, c'était vraiment mon premier, parce que je suis brestoise, donc plutôt urbaine. Mes parents n'étaient pas du tout du milieu agricole. Mais donc, j'ai découvert les joies de la vie à la campagne, les petits oiseaux le matin quand on se lève, c'est vraiment la réalité.
Mais ça vous plaisait parce que ça pouvait aussi être difficile, hein.
Oui, ça me plaisait. J'allais de temps en temps l'aider d'ailleurs à la traite. Bon, j'y vais moins maintenant, mais par beau temps, c'est agréable.
Paradoxalement, vous y allez moins maintenant, c'est ça qui est intéressant.
Ouais.
Et donc, vous avez eu un déclic tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben en fait, il y a eu la crise pandémique et le Covid-19. Je crois que ça nous a beaucoup tous touchés. Et on a vu quand même notre planète, c'est un petit peu a changé de phase, on va dire. Moi, je revois les images de Venise avec l'eau claire. Et un jour, ma fille me dit, mais qu'est-ce que vous allez nous laisser comme terre? Ça a été une remise en question pour moi. Je me suis dit, mais mince, c'est vrai, elle a raison. Moi, j'ai 45 ans et je peux encore agir pour faire quelque chose. Oui, on était tous un peu secoués. Et le soir, quand on avait fini la journée de travail, je voyais les vaches en train de pâturer dans le champ en face de la maison. Et puis là, je me suis dit, non, mais en fait, il y a quelque chose à faire avec le lait des vaches de mon mari, qui était en agriculture bio. Il a lancé sa conversion en 2016. Donc, on était déjà sur un produit qui était déjà en faveur des transitions écologiques, déjà une première base.
Vous étiez déjà conscient, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Et donc, il ne transformait pas, en fait, c'est ça? Il produisait le lait, enfin, comment ça se
passait? Voilà, il le produisait, et puis il y a un collecteur de lait qui passe tous les 3 jours récupérer le lait. Donc, parce que la transformation, c'est un atelier, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'énergie. Et donc, à l'époque, la question ne se posait pas.
Parce qu'il était tout seul à travailler,
parce
en fait,
qu'il était tout
ça,
seul, ouais, à travailler. Puis moi, c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas le lait de tes vaches? Et puis, ça faisait, pour être honnête, ça faisait déjà longtemps que ça me travaillait. Mais bon, il y a eu plusieurs crises laitières, on pouvait s'appuyer sur mon salaire, enfin bon...
Oui, c'est ça, quand on se pose toujours la question, bien sûr.
Tout à fait.
Même dans le lait bio, il y avait déjà eu des crises laitières
Disons qu'en fait, à l'époque, moi, mes premiers souvenirs où je me suis dit, tiens, si on transformait, c'était en 2006. Donc, il n'était pas en bio.
Ouais.
Il n'était pas en bio.
D'accord.
Donc, on est sur...
C'est un processus lent, quand même.
Processus
même
lent.
Si y a un déclic.
Ouais. Oui, parce que nous, à titre d'exemple, on a commencé à réfléchir à la transformation et à se dire qu'est-ce qu'on fait en juin 2020. Et vous voyez, l'atelier a ouvert en février 2022. Donc, c'est une belle gestation.
Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est assez rapide. Enfin, j'ai envie de dire, finalement, vous n'avez pas traîné, quoi. Enfin, vous avez pris la décision et puis vous y êtes mis tout de suite. En fait, c'est ça, en gros.
En fait, quand j'ai dit à mon mari, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'était quand même, c'est son entreprise, hein, son entreprise familiale. Donc, bon, il fallait en premier que lui soit partant. On est tombé sur un article dans L'Éleveur Laitier, qui est un magazine professionnel, qui présentait un certain nombre de réseaux et puis comment apporter un peu plus de valeur sur la ferme. Et il y a un réseau qui a attiré notre attention, qui est le réseau Invitation à la Ferme, parce qu'en fait, on partage les mêmes valeurs en termes de conduite de troupeau, tout ce que je dis par rapport à ce que j'explique par rapport aux transitions écologiques. Il y a un vrai travail de recherche et développement pour savoir quel est le poids de notre empreinte, l'empreinte carbone des produits qu'on propose. Donc, il y avait vraiment... c'était un réseau qui donnait du sens à sa démarche, et nous, c'était le sens qu'on voulait donner.
Ah oui, Bienvenue à la Ferme, c'est pas seulement un réseau touristique, en fait.
Alors, en fait, nous, c'est Invitation à la Ferme.
Ah, d'accord, c'est pas le même, ok.
Ouais, donc, du coup, moi, c'est vraiment un réseau de 43 éleveurs, surtout de la France, et qui décident de partager et de partager leurs pratiques, de partager leurs recettes, de partager autour de leur investissement. Donc, on partage même nos chiffres de vente dans les magasins, enfin, pour voir comment est-ce qu'on peut progresser ensemble et s'améliorer.
Et donc, c'est tous, vous êtes tous éleveurs laitiers en transformation laitière ou pas forcément?
Alors, il y a tous en transformation laitière, pratiquement tous éleveurs bio, sinon au moins engagés dans une démarche de conversion en bio. Et il y a de la chèvre et de la brebis. Chèvre, brebis, vache, et en termes de produits, fromage, yaourt et glace.
Et alors vous, chez Au Petit Corrigan, enfin votre mari, c'était uniquement du lait de vache?
Oui, c'était uniquement du lait de vache, ouais. Et moi je voulais faire du yaourt. Parce que je voulais...
Alors pourquoi du yaourt?
Parce que je voulais un produit qui soit bon pour la santé et qui soit sur toutes les tables. Vous voyez, un yaourt, on peut le manger au petit déjeuner, on peut le manger à midi, on peut le manger le soir. Je le vois un petit peu, alors peut-être c'est un peu exagéré quand je dis alicament, mais je le vois quand même comme un produit qui fait du bien au corps. Donc du coup, je voulais pas faire qu'un produit festif. Je voulais vraiment rendre le bien manger accessible au plus grand nombre. Et donc le yaourt, c'est le produit le plus accessible. C'est plus accessible que le fromage ou la glace.
Oui, c'est ça. Puis c'est effectivement bon pour le microbiote, dit-on. Et donc, votre mari vous a dit, bon, bah, ok. Donc là, les démarches étaient longues. Enfin, déjà, il fallait que vous deveniez associé, j'imagine. Concrètement, votre statut à vous. Donc, vous avez posé votre démission.
Oui, alors du coup, j'ai travaillé déjà un petit peu. J'ai avancé sur le projet pour vérifier que j'avais déjà les financements, etc.
Eh oui.
Et une fois que ça a été validé, j'ai informé mon employeur que je souhaitais partir. Donc, j'étais pas non plus tout à fait pressée parce que j'avais commencé à lancer les plans. Il y a quand même beaucoup de choses, hein, le permis de construire.
Ouais, parce que construire un atelier, c'était ça en fait.
Oui, construire un atelier. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a. Et puis, dans ma réflexion, c'était aussi, j'ai 45 ans. Un jour, j'aurai 55, 60 ans. Qu'est-ce que je vais être capable physiquement de pouvoir faire dans l'atelier?
Oui.
Donc, on a construit un atelier suffisamment grand pour me permettre à terme de faire plutôt du pilotage d'activité que uniquement de la transformation physique. Je pourrais toujours en faire un petit peu, mais tout ne reposera pas sur moi en termes de transformation.
Oui, parce que vous pouvez avoir des stagiaires, des salariés éventuellement. Enfin, c'est ça, en fait.
Oui, voilà.
Ouais. Là, vous en avez ou pas vous avez de la main-d'œuvre, entre guillemets?
Alors, la transformation, je pense tout court, mais la transformation laitière, je pense que si vous discutez avec n'importe quel transformateur local, il vous dira qu'il est obligé d'embaucher, parce qu'en fait, c'est vraiment créateur d'emplois, la transformation sur le territoire. Parce que du coup, il faut faire des livraisons, il faut faire de la prospection commerciale, mais il faut aussi... nous, on a démarré à deux. Au début, je me disais, mince, embaucher quelqu'un, on n'a pas vendu un yaourt.
C'est ça.
Mais au bout du compte, pour pouvoir se développer, il faut être plusieurs à travailler. Donc c'est vraiment c'était une découverte. Quand on a lancé le projet, je pensais créer mon emploi. Puis au bout du compte, je me suis rendu compte que j'allais créer de l'emploi sur le territoire, que du coup, j'allais apporter de la valeur sur la ferme.
Ouais, parce que vous aviez fait vos calculs, vous pouviez embaucher, quoi. Enfin, c'était faisable, quoi, économiquement.
Tout à fait.
Ouais. Et donc, est-ce que, comme vous êtes, évidemment, c'est votre métier, c'était le marketing, donc vous avez commencé aussi par concevoir vos produits, dans quel ordre ça s'est fait? Parce que, il y a les démarches pour construire l'atelier, mais après...
Alors là, c'est tout l'avantage de travailler avec le réseau Invitation à la Ferme, parce qu'en fait, moi, je suis, ce que vous disiez très justement, j'ai travaillé dans le marketing et la communication, mais alors du coup, je faisais des yaourts à la maison, donc j'avais aucune idée de savoir aujourd'hui, c'est quoi un yaourt de qualité que le consommateur accepte d'acheter, de déguster, de payer, donc à sa juste valeur. Et le réseau Invitation à la Ferme, il y a des salariés qui travaillent sur ces thématiques-là, qui nous accompagnent, qui font des visites qualité et qui nous disent, écoute, là, ton yaourt, il est trop filant, il va pas plaire.
Ils font des vraies études.
Il y a un vrai. C'est l'avantage justement de travailler à plusieurs et de se regrouper pour pouvoir analyser justement quelles sont les attentes des clients. Et moi, ça m'a plu parce que du coup, je me suis dit, cette partie-là, c'est une partie où il y a déjà des gens qui sont experts et qui travaillent. Donc moi, je vais faire mon travail de transformer en suivant bien les consignes qu'on va me donner.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, ils vous ont dit, est-ce qu'il faut, il faut au moins un yaourt nature et puis trois parfums, en termes de gamme de produits?
Donc, on est parti sur une gamme de 12 produits pour le lancement et on arrive à organiser la production sur 2 jours pour ces 12 produits-là. Donc, on a 3 yaourts, on va dire, que nous, on appelle les yaourts étuvés, qui sont des yaourts un peu classiques, fermes, mais quand même fondants. On a le nature, l'aromatisé à la vanille et l'aromatisé au citron. Donc, l'aromatisé au citron, c'est un produit qu'on trouve très peu en fait en produits fermiers. Après, on a les lits de fruits, qu'on appelle ça nos brassés sur lits de fruits. Donc là, on a myrtille, fraise, abricot et fruits rouges. Donc on fait la base le vendredi, puis en fait le lundi, on choisit quelle quantité on fait de myrtille. Donc on optimise en fait, on essaie d'être efficace dans notre travail. Oui. Et après, on a des crèmes dessert au caramel et crèmes dessert au chocolat, du riz au lait à la vanille et riz au lait nature, et enfin le fromage blanc.
Bon, et avec ça, c'est bon. Enfin, est-ce que vous prévoyez encore de développer d'autres produits ou...
En fait, si vous voulez, c'est rigolo parce que le responsable du rayon d'un supermarché dans lequel je livre m'a dit qu'il y avait des clients qui demandaient si j'allais proposer un autre type de fruit ou un autre goût. Donc, dans le cadre du réseau, il y a des expérimentations qui sont faites. Donc, du coup, on est appelé à nous positionner sur différents parfums. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais on en a quelques-uns en tête. Et pour la restauration collective, on fait, puisqu'on travaille aussi la restauration collective, on fait aussi des parfums un petit peu différents. Donc là, par exemple, la crème dessert vanille, que je ne propose pas en magasin, mais je la livre sur Quimper, par contre, pour les petits Quimperois.
Mmh, d'accord. Donc j'imagine qu'il ne faut pas trop se disperser non plus, qu'au bout d'un moment, ce n'est pas gérable, quoi.
Tout à fait. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de glace, a priori, ni de beurre.
Non, mais bon.
Parce que du coup, je reste sur une gamme de yaourts ou de produits dessert lactés, on va dire.
Et vous en avez parlé un petit peu, donc vous avez envisagé votre zone de chalandise tout de suite. Enfin, vous saviez en gros pour combien et quel secteur vous pouviez produire, comment ça s'est passé?
Donc on a décidé de ne pas dépasser les 80 km autour de la ferme, mais sur le Finistère, ça laisse quand même un beau territoire de jeu. Tout à fait. Et là aussi, le réseau nous a accompagnés pour identifier quelle était notre zone d'achalandise et potentiellement combien à terme, donc pas cette année, ni l'année prochaine, mais quand on aura complètement terminé notre développement, combien de litres de lait on pourrait transformer pour que ce soit viable. Et donc, du coup, on s'est arrêté sur le chiffre de 200 000 litres de lait. Donc, d'ici 5-6 ans, on transformera à priori 200 000 litres de lait.
Et parce que vous n'y êtes pas encore, c'est ça?
Ah non, pas du tout.
Parce que vous avez le troupeau, c'est combien de vaches?
Donc aujourd'hui, le troupeau, c'est 70 vaches laitières. C'est pas mal. Bon, elles ne sont pas poussées non plus.
Et c'est quelle race?
Alors, c'est une base de Primolstein. Et puis en fait, après, André a choisi de croiser, de faire des croisements. Donc il croise avec les Jerseyaises, Simmental, le rouge scandinave. L'objectif, c'est d'avoir des animaux qui ont une certaine rusticité.
C'est ça, plus résistants.
Plus résistantes. Puis elles font beaucoup de marche, en fait, parce que il y a 45 hectares accessibles autour de la ferme. Donc c'est vrai que l'été, des fois, j'allais avec lui, elles mettent 20 minutes le matin à aller à la traite. Hop, elles vont à la traite, puis elles refont 20 minutes pour aller dans le paddock. Et puis le soir, c'est la même chose. Donc il faut quand même des vaches assez résistantes.
Donc vous faites de traite par jour, sauf le dimanche, une traite. Voilà. et donc, vous n'êtes pas encore à 200 000, donc ça veut dire que vous n'avez pas de surplus, en fait. Vous transformez tout votre lait, là.
Non, on a gardé... le collecteur de lait continue à passer.
Ah oui, d'accord. Oui. Pourquoi?
Parce qu'il y a un équilibre financier déjà aussi, parce qu'on est en lancement, on ne transformera jamais. Aujourd'hui, mon mari a un quota, on va dire, il peut transformer 400 000 litres de lait, il peut produire 400 000 litres de lait. En moyenne, il en produit 380 000.
Ah oui, d'accord.
Et donc, du coup, au-delà des 200 000, on continuera à livrer.
Ah oui, d'accord. C'est, en fait, c'est parce que votre capacité de transformation n'est pas encore suffisante pour transformer. Mais les litres de lait, vous les avez, les 200 000. Vous les avez, quoi.
Oui, on potentiellement. Les... potentiellement, je les ai. Je comprends. Oui, tout à fait.
Très bien. Bon, eh ben, ça se... après, c'est le nombre de salariés qui va déterminer votre capacité à transformer, c'est ça ? Enfin, la diffusion aussi de vos produits.
Oui, la distribution et puis effectivement notre capacité à pouvoir salarier, parce que c'est pas un métier facile quand même.
Non, j'imagine. Bah, surtout en ce moment, on dit que le bio est en crise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti ?
Alors, on le sent aujourd'hui. Moi, je veux dire que j'ai un petit peu de la chance, c'est que je démarre. Donc, en fait, partout où j'arrive, je suis un nouveau produit. Donc, du coup, les gens ont envie de goûter. Et puis, c'est un peu une chance. Je vais en animation, en magasin, je vois que l'impact prix est moins important parce que on est producteur local. Je sens que c'est plus facile pour moi que ça ne l'est, je pense, pour des personnes qui transforment depuis très, très longtemps. Parce qu'effectivement, la thématique du pouvoir d'achat, elle est très présente dans les médias. Donc, il y a quand même un impact sur le consommateur quand il vient en magasin. Pour autant, on entend aussi que le prix du litre de lait conventionnel va augmenter. Mm-hmm. Donc, et que celui du lait bio va rester
stable à peu près.
Mm-hmm. Conclusion, les deux vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc, le consommateur se posera à un moment donné la question entre deux laits différents. S'il choisit d'acheter un yaourt, par exemple, conventionnel ou un yaourt bio, ce sera lui.
Oui, puis après, il y a vos recettes spécifiques. C'est quand même un produit plaisir aussi.
C'est un produit plaisir.
Faut bien dire ce qui est. Et donc, vous avez trouvé combien de magasins pour la distribution ?
Alors aujourd'hui, on est, j'ai environ une quarantaine de clients. Je dois avoir à peu près une dizaine, 10-12 clients en restauration collective et puis le reste en magasin. Alors ça va du petit magasin de producteurs. Mm-hmm. On a une épicerie sur Cast, par exemple, qui performe très bien, jusque des magasins plus importants qui ont envie de jouer la carte du local aussi.
Des supermarchés, quoi,
Des supermarchés.
Pas aussi. Forcément des Biocoop, mais...
Non, pas forcément des Biocoop. On est aussi présent en magasin spécialisé. Mais c'est vrai que toute la thématique, moi, quand on a lancé ce projet avec André, c'était comment est-ce qu'on rend le produit accessible. Donc en fait, j'avais vraiment envie d'être là où les gens font leurs courses.
Et donc votre travail à vous, Laurence Ranous, c'est donc finalement, vous ne faites pas de traite, vous pilotez la transformation, puis vous faites beaucoup de commercialisation, en fait, c'est ça ?
Le lundi et le mardi, je suis à l'atelier. Et donc, je transforme avec ma collègue. Et le mercredi et le jeudi, je fais soit de la prospection commerciale, soit du suivi de magasin, soit un petit peu d'administratif aussi, parce qu'il faut aussi faire la facturation, il faut aussi payer les factures. Et donc, il y a tout un pan de ce travail-là qui est un peu fantôme, en fait, parce qu'on ne le voit pas. On ne l'imagine même pas. D'ailleurs, quand on se lance, qu'il y aura ça à faire. Moi, je me faisais mes factures. Le premier mois, je les ai fait le dimanche après-midi, parce qu'il n'y avait de place dans
l'emploi du temps.
Et le vendredi, on transforme le matin, une partie pour préparer la semaine suivante. Et puis, le vendredi après-midi et le samedi, moi, je suis en animation en magasin.
Ah oui, c'est ça. En plus, vous faites ça, quoi.
Tout le monde fait ses courses de manière automatique. Mm-hmm. Donc, il faut se faire connaître.
C'est important de faire
ça. C'est important.
J'imagine que toutes les fermes ne font pas ça. Enfin, tous les transformateurs de lait ne font pas ça, quoi. Cette implication personnelle, quoi.
Après, moi, honnêtement, c'est presque la partie la plus simple. Parce que c'est là que, pour moi, c'est là où je suis dans mon domaine de...
Votre premier métier.
D'aisance, ouais.
Bien sûr, tout à fait.
Rencontrer les gens, discuter avec eux, leur expliquer pourquoi je fais ça, leur faire goûter. Ils goûtent, ils disent, mais c'est bon, on va prendre celui-là, puis on va aussi goûter l'autre quand même, parce que...
Donc, oui, ça fait plaisir en plus d'avoir le retour direct des consommateurs, quoi.
Ouais.
Ouais. Et donc, vous avez parlé de ce réseau Invitation à la ferme. Et vous êtes là aussi parce que vous faites partie d'un autre réseau, la Maison de l'Agriculture Bio. Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait ?
Déjà, c'est agréable de pouvoir travailler et discuter avec des gens qui ont la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs que celles que l'on porte. En plus, ils font un gros travail de promotion de la bio dans le Finistère. Donc, et ça, c'est vraiment très, très important. Il y a beaucoup de travail qui est fait, notamment à destination de la restauration collective, parce que c'est pas si simple que ça.
Oui, malgré les obligations légales.
Oui, alors ça aide quand même.
Oui, quand même.
Ça aide. Ouais. Mais bon, il y a des codes. La restauration collective, les cuisiniers, il y a des codes que nous ne connaissons pas. Et donc, du coup, la maison de l'agriculture bio, elle nous aide aussi à comprendre ces codes-là. Ils rendent quand même très accessibles aussi ces problématiques-là au grand public. Par exemple, je vois qu'ils font des réunions avec les parents. Ils ouvrent des réunions à des consommateurs finaux, des parents dans les écoles. Ça permet aussi de faire connaître ces thématiques et d'intéresser les gens à ces thématiques-là. Donc ça, c'est clair que tout ce travail de promotion, il est vraiment très important et il apporte aux éleveurs. Il y a toute l'organisation d'événementiel. Vous avez parlé des petits déj bio, mais aussi des visites de ferme. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de relais de tout ça, de tous ces événementiels-là. Et puis, avec le groupement des agriculteurs bio, il y a aussi toute la partie formation.
Alors oui, vous en avez suivi, vous, des formations?
Oui, moi, j'ai suivi une formation sur le plan de maîtrise sanitaire. Je me suis inscrite à une formation sur la restauration collective, mais je n'ai pas pu y participer parce que ça tombait un jour où, du coup, j'avais d'autres obligations. Donc oui, il y a vraiment... contribue à la culturation aussi.
Oui, du public, du grand public, du en grand fait. Public, oui, qui commence à connaître quand même le bio dans le Finistère, ouais. Ça commence à venir. Et alors, les petits déj bio à la ferme, donc c'est eux qui les organisent. Vous, c'est la première fois, donc du coup, vous participez, enfin, la ferme des petits Corrigans, je suppose.
Oui, c'est la première fois.
Alors, qu'est-ce que vous allez proposer
Donc, déjà, on va proposer de visiter l'exploitation. On a la chance, en fait, aussi d'avoir créé des cheminements pour les vaches qui sont, du coup, praticables aussi à pied pour nous. Donc, on va proposer une balade découverte de la chapelle de Quilly-Doiré qui est juste à côté de chez nous, qui sera ouverte pour l'occasion. Donc nous, c'était notre...
Un cast, je redis.
Oui, un cast. Ouais. Donc nous, c'était notre balade des 1 km quand on était confinés. Donc, quand on arrivait à la chapelle, on était tout juste sortis de notre propriété. Donc du coup, on pouvait commencer nos 1 km. Donc ça nous amusait aussi. Donc on longe les pâtures, on peut voir les bêtes dans les champs. Et la fontaine qui est liée à la chapelle est sur... le territoire, propriété privée de l'exploitation. Donc du coup, on va rendre cette fontaine-là accessible ce jour-là. Donc voilà, on va faire un concours de destin pour les plus jeunes. On a mis aussi en place un petit marché de producteurs. Et puis enfin, on aura aussi des jeux bretons. Et puis le petit déjeuner. Et puis,
qu'est-ce qu'il y aura au petit déjeuner? Tous les produits, toute votre gamme, c'est ça?
Oui, on va la proposer. Il y a un produit laitier qui est proposé pour chaque petit déjeuner. Donc ils pourront choisir entre nos différentes gammes de produits.
Et est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance?
Oui, il faut s'inscrire à l'avance.
Et là, ça passe par où? Le site internet de la Maison de la Bio, peut-être?
Oui, tout à fait.
Bon, ou la fête du lait, celui de la fête du lait bio, peut-être. On mettra ça sur le site internet de Radio Évasion, de toute façon. Pour vous, c'est pour la ferme des petits Corrigans, ce petit déj bio à la ferme, c'est pas la seule action que vous menez, justement. Vous faites de la médiation culturelle fermière, si j'ose dire. Enfin,
On débute, c'est vrai.
Non, mais vous ouvrez votre ferme, c'est ça, régulièrement.
Pour nous, c'est important, la transparence et sur la conduite de troupeau et sur l'atelier de transformation. Donc, si vous avez l'occasion de passer, je vous invite d'ailleurs à venir. On a des grandes baies vitrées. Donc, moi, je raconte, le lait, il arrive là, il passe par là, ça arrive dans les cuves, on fait ça. Donc, je ne peux pas faire rentrer le public dans l'atelier. C'est trop touchy un petit peu. Mais par contre, je peux raconter les étapes de la transformation et on a des grandes baies vitrées pour le montrer. Donc, on fait des traites ouvertes tous les premiers mercredis de chaque mois. Donc, c'est sur inscription aussi. Donc,
c'est à quelle heure la traite?
C'est à partir de 17h. Donc voilà, par beau temps, on peut même aller chercher les vaches avec André. Mm-hmm. Et en juillet et août, parce que comme j'ai fait du développement touristique, je trouvais que c'était pas très juste que les touristes, il n'y ait que ceux de la première semaine de juillet et de la première semaine d'août qui puissent participer aux traites ouvertes. On va faire des traites ouvertes tous les mercredis à partir de 17h. Et comme ça aussi, les Finistériens qui sont en vacances, c'est l'occasion de. C'est une petite sortie sympa avec les enfants.
Oui, c'est vrai, on n'a pas creusé cette question des liens entre le tourisme et l'agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez?
Si vous voulez, je pense que déjà, la visite d'une exploitation agricole, Déjà, il y a un vrai savoir-faire sur le territoire, donc c'est important d'en parler. C'est une visite gratuite. Souvent, vous allez visiter un musée, et puis ben, vous allez chercher dans votre semaine à compléter vos sorties par quelque chose qui est un petit peu moins onéreux pour une famille. Donc, la visite d'une exploitation agricole, ben, ça répond à ce critère-là.
Oui, tout à fait. C'est du tourisme économique.
C'est du tourisme économique, c'est tendance. Et puis, c'est notre territoire, quoi. Enfin, une des raisons pour lesquelles quand j'ai lancé le projet, au fur et à mesure que j'ai commencé à réfléchir à tout ce que ça avait comme impact, j'ai vu, d'ailleurs on en a parlé dernièrement dans les médias, un film qui s'appelait Le Dernier des Laitiers. Et en fait, ça a été tourné dans le coin et ça explique que le nombre de producteurs de lait et le nombre de vaches dans les pâtures
diminue drastiquement.
Et en 2050, ils disaient qu'il n'y aurait peut-être que un.
Bah oui, mais c'est-à-dire qu'on se dit que c'est vrai que l'élevage laitier, c'est en gros celui qui a l'image du plus difficile des formes d'agriculture, non ? Enfin, c'est vrai, on se dit ça.
Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mon mari ne dirait pas ça. Voilà. Il adore son métier.
Mais oui, heureusement.
Et puis, il y a une vraie connivence aussi entre l'animal et puis l'éleveur. Enfin, c'est aussi ça qui fait le charme, je pense, de la production laitière. Mmh. Donc du coup, voir des vaches dans les champs...
Pour un touriste, c'est bien.
Pour un touriste,
ou
c'est
un
bien.
Habitant.
Ou un habitant, c'est agréable. Ouais. Donc du coup, nous, on propose cette visite-là pour ça aussi.
Bon, alors, il reste des places pour le 12 juin, en tout cas,
oui.
C'est ça ? Donc, c'est les petits déj bio à la ferme le 12 juin, et notamment à la ferme des petits corrigans à Castres. Merci beaucoup, Laurence Ranoux.
Merci.